Allez, bonjour à tous. Je me présente brièvement. Je m'appelle Rebou Zamahé. Après mon bac en 2007, j'ai eu l'opportunité d'aller étudier l'architecture grâce à une bourse d'études du gouvernement malgache à Alger, en Algérie. Après 5 ans d'études, je suis allé à Dakar, au Sénégal. Et c'est là-bas que j'ai eu à faire mon premier projet, qui consistait à designer et livrer une boutique de cadeaux dans l'un des plus grands centres commerciaux de l'Afrique de l'Ouest, hein, qui s'appelle le Cyclaza. Ensuite, je suis retourné à Madagascar en 2014. Entre-temps, je me suis inscrit à l'Ordre. Et ensuite, depuis 2015, je suis en Afrique du Sud. Je travaille dans un cabinet qui s'appelle Gavin Madoc Design Studio. On est plutôt spécialisé dans le high-end residential. On a quelques projets ici en Afrique du Sud et 2-3 projets en Australie. Ce qui est cool, c'est que même si on a une tendance à faire plutôt du résidentiel, multi-résidentiel, appartement, trucs comme ça, si tout va bien, vers la fin de cette année, on aura peut-être commencé une école de technologie. Donc voilà, en quelques mots, c'est ça, c'est ma carrière jusque-là et en espérant que ça continue dans cette voie.
Ok, alors Maïfa, ravie d'entendre ton parcours. J'avais une question concernant ta première expérience ou un premier souvenir d'architecture que tu aurais en tête à partager avec nous.
Alors, intéressante. La première chose qui me vient en tête, et bizarrement, hein, c'est inconsciemment, quand j'étais petit, aller à l'Alliance française faisait partie de nos habitudes hebdomadaires. Et quelque chose qui m'a marqué, c'est l'Alliance française d'Andavama. Quand je regarde ce bâtiment, aujourd'hui, en tant qu'architecte, je me rends compte qu'il y a une pensée, il y a une conception derrière l'ensemble du bâtiment. Déjà, quand on approche le bâtiment, quand on apprécie le bâtiment, ensuite, il y a la brique, les proportions, les structures que l'architecte a décidé d'exposer. Et l'ensemble du bâtiment, en fait, reflète un peu l'architecture des hautes-terres malgaches, hein, avec la brique, la couleur, etc., la toiture en tuiles, etc. Ce qui aujourd'hui, en tant qu'architecte, m'évoque toute la réflexion qu'il y a eu derrière. Quand j'étais petit, je pensais pas à tout ça, mais c'est quelque chose qui m'a pas rendu indifférent. Et en plus de ça, bizarrement, quand je pense aussi à l'Alliance française de Tuléar, ce genre d'imbrication de volume, de petites caves, là où tu vas aller prendre un livre, t'asseoir, ce sont des petites choses comme ça qui me viennent à l'esprit directement quand je pense à l'architecture, mes premiers contacts avec l'architecture. Voilà.
Maëf, bonjour, j'ai aussi une question pour toi concernant les critères qui pourraient te faire dire qu'une architecture est de qualité.
Alors, au-delà de tout critère fonctionnel, je pense, contextuel, social, je pense qu'une architecture est de qualité quand elle évoque quelque chose de, pas toujours tangible, hein, quelque chose d'inconscient, quelque chose qui peut être une texture, qui peut être une ambiance particulière, une atmosphère particulière, une vue peut-être, mais c'est quelque chose qui t'incite peut-être à revenir dans l'espace et de le revivre encore une fois. Il y a des espaces où l'on passe sans que ça nous interpelle. Et il y a certains espaces que voilà, on a envie d'y retourner. Voilà. Si l'architecte arrive à créer ce genre d'émotion, ce genre de sentiment, je pense que voilà, qu'il a pu créer cette qualité dans son architecture. Encore une fois, expliquer cela, ça dérive un peu de l'inconscient, et ce sont des choses qu'on sent que l'on n'exprime pas forcément. Voilà.
Et à propos de cette architecture de qualité, donc tu fais un rapport avec une architecture qui procure de l'émotion. Est-ce que tu as déjà rencontré au cours de ta vie ce genre d'architecture qui t'ont ému, qui t'ont bouleversé, ou qui au contraire ont provoqué une espèce de frustration ou certains sentiments?
Je dirais oui, forcément. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est un bâtiment de l'université de Cape Town. En étant familier avec les universités à Madagascar, quand tu entres dans une université comme ça, avec tout ce qui est espace, tout ce qui est imbrication, tout ce qui est relation, le confort de l'étudiant quand il est en train de prendre ses cours, c'est juste incomparable. Il y a toute une qualité, tout est pensé, l'orientation, la relation, le sonore, la qualité sonore dans l'espace, les lumières. Il y a toute une ambiance que l'architecte arrive à penser. Et quelque chose qui m'a aussi marqué ici, en parlant de qualité, c'est que les gens ont toujours tendance à mettre en avant le côté intérieur quand ils parlent de qualité, mais l'imbrication, peut-être que c'est un lifestyle aussi en Afrique du Sud, la relation entre intérieur et extérieur est extrêmement étudiée, extrêmement bien exécutée. Donc, il y a toute cette imbrication-là. Dès que tu entres dans l'espace de l'université, dans l'espace du département en question, tu sens qu'il y a un espace qui a été pensé, et il y a un espace qui a été vraiment designé dans l'objectif d'avoir quelque chose d'authentique et de qualité.
Bonjour à tous, je me présente Chamabou Dabaï, architecte et designer d'intérieur basé à Tamatav, à Madagascar. Donc, je suis ici depuis à peu près 2 ans et précédemment, j'ai effectué premièrement ma licence à l'île de la Réunion avec une formation plutôt basée sur l'architecture tropicale et différents workshops et concours, notamment sur l'accessibilité à la mer, donc au Barachois à Saint-Denis, et un concours sur l'architecture tropicale à Sainte-Marie avec notamment la conception de logements. Suite à ça, j'ai effectué mon master à l'école de Paris-Lavillette, donc à Paris, avec aussi différents workshops et concours, notamment la réalisation d'un espace public au Sénégal, plus précisément à Dakar, et l'analyse urbaine de 4 villes situées au Kerala en Inde. J'ai aussi travaillé sur la thématique des slums en Inde et comment ces slums, situés à Bombay, représentaient tout un assemblage rhizomique très important pour la ville dans laquelle se déployaient des centaines de métiers et de talents. Et j'ai travaillé pour mon PFE, donc projet de fin d'études, sur la réhabilitation des barres de logement situées à La Courneuve, donc avec tout un questionnement sur comment réinventer le logement en France. Suite à ça, j'ai travaillé dans différentes agences parisiennes et puis j'ai complété ma formation avec une formation en intérieur design avec une école qui est située en Angleterre. Et j'ai travaillé aussi dans des agences situées à Tananarive, donc à Madagascar. Et là, je suis en train d'effectuer ma HMONP, donc habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, afin de pouvoir ouvrir mon agence et travailler notamment dans la zone océan Indien.
Bonjour, je suis Fiti Raswavatsar et j'ai choisi d'être architecte parce que quelque part c'est une histoire de famille. Quand j'étais petite, mon père m'emmenait souvent sur les chantiers sur lesquels il travaillait. Et en grandissant, j'ai développé un intérêt dans l'acte de construire par différents jeux, que ce soit les Lego ou les maisons de poupées ou les Sims. Donc naturellement, j'ai choisi d'étudier à l'école d'architecture de Marseille. Et ce qui m'a marqué de ces années d'études, c'est l'importance donnée au concept d'architecture, donc ce parti pris qui se trouve au fondement du projet, comme un fil rouge qu'on déroulerait d'un point A vers un point B et qui, dans le processus du projet, serait étoffé par différents éléments comme le contexte dans lequel s'insère le projet, les questions de matérialité, de lumière, des échanges avec différents interlocuteurs aussi, ou des lectures par exemple. Au cours de ces années de formation, j'ai eu la chance de suivre des stages dans deux agences d'architecture. Une à Marseille, l'atelier du Prado, qui, on va dire, se résume à l'étude d'un projet d'hôpital à Marseille. Et un autre stage de fin d'études au sein de Chan Architecture à Antananarivo, qui m'a permis de prendre conscience de la richesse de la palette d'activités d'un architecte, notamment les échanges avec les différents acteurs d'un projet, les échanges avec d'autres collaborateurs, d'autres personnes, d'autres disciplines. Et c'est à partir de ce stage que j'ai pris conscience, pris la décision de renforcer mon bagage académique et d'entamer une formation en HMONP. Donc à la suite de quoi, j'ai travaillé un an et demi à l'agence ADMS Atelier Plus, ce qui m'a permis de découvrir les différentes subtilités pour les établissements recevant du public et relevant du domaine de la santé. Dans mon envie d'évoluer vers d'autres horizons, j'ai intégré le groupe bancaire LCL dans le pôle immobilier et réseau pour la rénovation des agences bancaires. Et en septembre, j'intègre l'équipe parisienne de l'agence Quattro Architecture pour revenir dans un milieu de création qui m'est beaucoup plus familier et pour travailler dans des équipements collectifs. Si je pouvais qualifier mon parcours aujourd'hui, si je pouvais résumer mon parcours aujourd'hui, je dirais qu'il se résume à cette quête d'apprentissage, cette envie d'apprendre, cette envie de ne pas me limiter, cette envie de découvrir les différentes facettes du métier et d'embrasser la profession dans toute sa diversité. En plus de mes expériences professionnelles, j'ai voulu aborder à titre personnel une autre facette de la profession, à savoir les concours. Donc j'ai pu participer à deux concours, un organisé par le syndicat de l'architecture sur le logement collectif et un autre pour un concours d'idées sur une chapelle au Rwanda.
Quelle serait votre opinion sur l'architecture de qualité?
Bon, je pense que déjà tout ce que Maïf a dit est assez complet. Il y a vraiment cette idée d'une architecture qui est portée par un concept en fait, et ce qu'on pourrait appeler aussi le sens profond d'un projet. Donc ça pourrait être, je pense qu'un concept, ça pourrait être une idée qui vient en visite, en première visite. Ça pourrait venir d'un sentiment, d'un souvenir, comme par exemple Maïf avec le sentiment et les sensations qu'il a eues en visitant l'Alliance française d'Indavamin. Et je pense que on peut dire qu'une architecture de qualité, c'est aussi une architecture qui respecte du début à la fin de l'esquisse à la livraison du bâtiment, qui respecte le concept sur lequel il est, autour duquel il est bâti.
Moi, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit, Fiti. Mm-hmm. Déjà, en effet, je suis d'accord avec ce qu'a dit Maïfa sur ce que procure le bâtiment en termes d'émotion. Donc là, on pouvait parler d'architecture sensitive dans le sens où il touche nos sens, autant le toucher par le travail sur les textures et sur les matériaux que sur d'autres sens. Mais par contre, ce que tu dis, Fifi, c'est très intéressant aussi. Et sur cette maîtrise du projet dont tu parles, c'est-à-dire qu'on part sur une idée de base et qu'elle doit être respectée en fait jusqu'à la fin, donc respecter ce concept. Et je me demandais justement si il n'y avait pas une complexité au vu des différents intervenants qui étaient là justement et qui étaient acteurs dans l'acte de bâtir, de justement conserver cette conformité architecturale, parce que de plus en plus on est confronté à tous ces intervenants qui viennent et qui finalement bouleversent complètement le projet. Et on se demande, est-ce que finalement cette maîtrise de projet, ce serait pas que l'architecte ait un rôle plus important et plus qu'il puisse renforcer cette position assez fragilisée dans l'acte de bâtir ou dans la fabrique du projet.
Je comprends tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, l'acte de bâtir ne peut pas se faire tout seul. Donc, on est amené à transporter avec nous tous les différents acteurs d'un projet, que ce soit le maître d'ouvrage, que ce soit les entreprises, et que quelque part, le rôle de l'architecte, qui peut-être n'est pas compris par tout le monde, c'est aussi de rassembler tout ce monde-là vers une vision commune pas de venir en tant que despote et dire c'est comme ça et pas autrement, je veux rien entendre, mais de pouvoir faire discuter tout le monde autour du concept, du projet en fait, et de tendre vers le projet final qui finalement n'est pas celui de l'architecte seulement, mais celui du maître d'ouvrage, des entreprises, du maçon, de l'électricien.
Oui, c'est un projet commun. Ouais, c'est un projet commun, et dans ce sens, peut-être la vision de l'architecte en tant que chef de file ou cette vision élitiste n'est plus d'actualité, et qui serait plus un architecte accompagnateur et médiateur.
Plus leader que comment dire ça ? C'est quoi le contraire de leader ? De
un dictateur.
Ouais, qui accompagne. Qui rassemble et qui accompagne.
C'est ça.
Voilà, exactement. Et je pense que ça résume bien aussi la définition de qualité dans toute l'architecture, parce que si tu arrives à concilier tout ce monde avec ses techniques et ses contraintes, et que tu arrives à délivrer un bâtiment qui procure ce bien-être et ce sentiment pour les usagers, alors là, voilà, c'est top.
Ouais, c'est vrai. Et aussi rassembler, je pense qu'on oublie souvent parfois on oublie l'humain et l'usager quand on construit dans la matrice de projet. Je pense que l'architecture de qualité, c'est surtout se dire qu'on construit pour l'usager, parce qu'on a énormément de contraintes économiques, et parfois, à partir de toutes ces baisses de coûts, c'est vrai que l'architecte, des fois, est un peu perdu dans tout cet amalgame, mais voilà, replacer l'humain au cœur du projet pour avoir une architecture de qualité.
C'est ça. Non, j'avais juste une question pour Chama, du coup, par rapport à la vision de ce qu'est un architecte. On vient d'en parler un petit peu, hein. Mais pour toi, un architecte, Chama, ça serait quoi ? Et ça serait quoi en plus son rôle ? En plus de rassembler et entre guillemets, de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde ?
Oui, alors en fait, je pense que si on reste assez terre à terre, l'architecte est là pour répondre à une demande, donc à la demande du client. Donc en fait, c'est une prestation intellectuelle, parce qu'en fait, l'architecte va donner en quelque sorte du jus de cerveau, donc ce qui est assez compliqué finalement au niveau des honoraires, mais c'est un autre débat. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a une réelle confusion entre la construction et l'architecture, puisque finalement, c'est deux métiers qui sont très confondus. Et donc l'architecte doit amener du confort, mais aussi de l'enchantement pour les usagers. Donc c'est pour ça qu'on peut parler d'enchantement de l'architecture, et amener aussi une poétique pour développer cette vision qu'il a du monde, et répondre à cette demande donc du client, mais en essayant de la sublimer, de sublimer son idée et de penser à des choses auxquelles le client n'aurait même pas eu l'idée de mettre en place, quoi. Et c'est le challenge de l'architecte, de pouvoir faire donc de l'architecture et non de la construction, en prenant en compte toutes les contraintes, qui soient des contraintes de terrain, mais aussi évidemment des contraintes budgétaires et économiques auxquelles on est confronté pour chaque projet. Et puis l'architecte a aussi, je pense, un rôle vraiment sociétal à jouer au vu de tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés, donc la société, qui sont des enjeux autant donc économiques, bien sûr, mais aussi climatiques, écologiques, avec donc toute cette urgence dont on entend parler depuis plusieurs années, qui est l'urgence climatique.
Je pense aussi que l'architecte a des obligations vis-à-vis de la société, vu que le produit que l'architecte conçoit sera présent dans l'espace urbain pendant au moins 50 ans ou plus. Donc, la responsabilité que l'architecte a de pouvoir mettre un espace à disposition d'une ville ou des usagers pendant ces années-là, c'est une immense responsabilité avec toutes les contraintes que ça engage. Il faut que, voilà, c'est pas tout le monde qui arrive à concilier tous ces enjeux-là afin de délivrer quelque chose qui va servir toute une génération, en fait.
Oui, il y a une réelle marque. L'architecte laisse sa marque, finalement, c'est vrai. Et puis, finalement, quand on marche dans la rue, l'architecture est partout. On ne peut pas fermer les yeux et se dire, bon, même si cette architecture ne me plaît pas, je ne la regarde pas, elle est partout, donc... Il y a vraiment un réel rôle de l'architecte à ce niveau-là, ça c'est sûr.
Du coup, Maïs, si tu n'étais pas architecte, quel métier tu ferais ?
Aïe, aïe, aïe. Pour être honnête, après mon bac, les options qui se sont présentées à moi étaient le droit et le commerce et la science marine. Et avant d'entamer ces choses-là, j'avais une discussion avec une cousine à moi qui s'appelle Hans. Et ce qu'elle m'a conseillé, c'est de rester dans des choses plus techniques. Et parce que au fil de ta carrière, tu peux aller faire un MBA pour devenir un manager ou quelque chose comme ça. Donc, le fait d'avoir le bagage technique avant le bagage administratif ou gestionnaire était un plus. Donc, j'avais entamé une formation pour être en sciences marines, mais quand les applications pour les bourses se sont avérées positives, il y avait pas question quoi, c'était l'architecture ou rien. Donc voilà, c'est un peu comme si c'est l'architecture qui m'a choisi. Voilà. Mais voilà, je ne me vois pas faire quelque chose d'autre. Je pense que je m'ennuierais à mort si j'étais un fonctionnaire, un truc comme ça, sans pour autant manquer de respect aux fonctionnaires. Mais voilà, je ne pense pas que je pourrais faire quelque chose d'autre. Je ne sais pas.
Moi, si je n'étais pas architecte, l'écriture, c'est un domaine qui m'a toujours passionnée, la lecture et l'écriture. Et dans le sens où on part d'une page blanche et qu'on construit petit à petit un récit, une histoire, je pense que c'est un métier qui m'aurait énormément plu, puisqu'il y a un lien évident avec l'architecture qui raconte aussi une histoire à partir d'un concept et d'une page blanche. Donc c'est un rapprochement et un métier que j'aurais énormément, qui me plaît énormément.
Honnêtement, je n'ai jamais vraiment pensé à faire autre chose que de l'architecture parce que quand j'y repense vraiment, je pense que depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu construire. Et ça a commencé très vite quand mon père m'emmenait sur des chantiers ou quand j'ai commencé à jouer aux Sims. Voilà. Et je pense que déjà quand j'ai fait mes choix juste avant ma terminale, j'ai fait que des choix pour des écoles d'architecture. Et c'est vrai que si j'avais dû faire autre chose, j'aurais voulu quelque chose pareil comme Sharma dans la création, mais peut-être plus dans la cuisine, dans cette idée de se dire qu'on va créer quelque chose, créer une émotion. Peut-être que ça n'aurait pas plu. Hein. Je ne dis pas du tout que j'aurais réussi dans ce domaine-là. Mais le côté où on va créer des émotions dans un plat, dans le dressage, dans l'apparence, dans ce qui se passe dans ce qui se passe quand on dans la première bouchée, des choses comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, je me vois pas me reconvertir dans autre chose.
Alors, qui sont les architectes d'aujourd'hui que tu regardes et qui t'inspirent, Chama? S'il y en a quelques-uns en particulier.
Alors, des architectes qui m'inspirent, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Mais pour n'en citer quelques-uns, je dirais Maria Tabassou, qui est une architecte qui travaille en Afrique et qui a un sens du détail qui est exceptionnel et qui a une manière d'appréhender les volumes qui est très intéressante. Ensuite, je parlerai de Peter Zumthor dans la manière dont il utilise la lumière et comment en fait cette lumière modèle les différents espaces qu'il construit. Et puis, je parlerai, je pense, de Barragán, Luis Barragán, donc dans la manière dont il travaille les couleurs. On a l'impression qu'elles sont vivantes, ces couleurs, et qu'elles arrivent à rapetissir, à grandir les espaces et qu'il les manie avec beaucoup de brio. Et puis, le collectif Sigu, qui est un collectif français qui est absolument génial et qui a réintroduit le fer en architecture, donc fer FAIRE, puisque je pense qu'il y a une certaine dissociation entre le penser et le faire qui s'est manifesté en architecture. Et ils ont essayé de le replacer vraiment en mettant au cœur de chaque projet d'expérimentation, la recherche. Ils ont créé un matériau à partir de papier recyclé. Et cette démarche, je la trouve exemplaire dans le sens où voilà, ils construisent, ils essayent, ils expérimentent. Ça va, tirer, essaye. Donc voilà, c'est pas mal. Et je te renvoie la question, du coup, quels sont les architectes qui t'inspirent, vous deux, Maïfa et Fiti? Quels sont les architectes qui vous plaisent, que vous regardez?
Fiti, tu vas
okay. Moi, je pense qu'au cours de mes études, il y a plusieurs architectes qui m'ont... Enfin, plusieurs architectes qui m'ont inspirée, mais je suis assez sensible à l'architecture d'Alvaro Siza, d'Eduardo Souto de Moura aussi, peut-être parce que dans mon cursus on a eu à étudier certains de leurs bâtiments, et c'est cette simplicité dans le concept, mais cette simplicité qui va donner quelque chose de très très épuré, de très beau au final, avec juste une différence entre deux matériaux, entre la pierre et entre la blancheur d'un mur, il va créer quelque chose, enfin, il va créer un sentiment, une émotion, il va y avoir de la poésie dans ces bâtiments en fait. Et ce qui a fait que j'ai encore plus aimé l'architecture d'Alvaro Siza, par exemple, c'est quand on a eu la chance de visiter la chapelle à Saint-Marco de Canaveses. Et c'est une église. Et malgré tout, c'est une église pas du tout conventionnelle, pas comme on trouve peu, en fait. Et j'ai trouvé ça très beau, juste le fait avec des volumes, des matériaux et juste les volumes et les matériaux, de créer une émotion, quelque chose de pas tangible, mais il se passe quelque chose quand on entre dans l'église. Et toi, du coup, Maëlle?
Si je devais en citer quelques-uns, je dirais... un architecte israélien qui s'appelle Pitsou Kedem. Je trouve que sa façon de travailler sur tout ce qui est volume, relation entre intérieur et extérieur, manipuler la lumière dans certains espaces de ses projets, c'est juste impressionnant pour moi. Et des fois, comment il traite la jonction entre deux matériaux différents, il les traite d'une certaine manière que tu sens qu'il y a une différence entre un espace avec un certain matériau et l'autre espace imbriqué avec une fonction complètement différente, mais que les deux ont une relation assez exprimée et assez bien traitée. Il y a aussi un bureau sud-africain qui s'appelle Saota. Je pense que c'est juste les meilleurs en Afrique. Hein. Pour moi, il n'y a pas de discussion. à chaque fois que ces gars-là te sortent un projet, c'est juste waouh. C'est, ils ont aussi la chance d'avoir des clients qui ont l'approche assez assez deep comme ils disent ici pour exécuter ce genre de choses. Mais techniquement et technologiquement, c'est impressionnant. Et enfin, il y a un architecte japonais qui s'appelle Kengo Kuma. Avec son travail du bois, les imbrications de bois, tu ne vois jamais un joint, tu ne vois jamais comment ça s'imbrique, mais que ça marche, c'est juste impressionnant. C'est la technique de maîtrise du bois japonais, c'est quelque chose qui me parle énormément. C'est pour ça que j'admire énormément ce qu'ils font. Voilà. Ce sont les trois qui me viennent en tête instantanément.
Waouh, on voit vraiment que tous les trois, vous êtes très inspirés régionales. Hein. Je suis désolée de vous dire, mais il y a vraiment une bonne définition de votre pratique, c'est régional et vos inspirations. Et d'ailleurs, Chama, tu peux nous définir ta pratique. Là, j'écris en un mot, mais ça va être une phrase, un paragraphe.
Absolument. Je pense qu'on l'aura compris au travers de mes différentes interventions, c'est plus une architecture qui est sensible ou sensitive, avec une prise en compte importante des données existantes, donc toujours in situ, les données économiques, politiques et surtout contextuelles, donc sur le terrain lui-même. J'aime beaucoup faire des relevés habités, que je fais souvent quand j'interviens sur des projets, donc passer du temps sur place, relever l'existant, dessiner. Je dessine énormément, c'est une partie de ma pratique de l'architecture que j'aimerais vraiment pouvoir pousser et qui fera partie un jour de, si j'ai une agence, de ma pratique architecturale et de cette idée de transmettre une idée à l'autre par le dessin qui reflète toute une poétique du projet. Et une nouvelle manière d'aborder le projet. Donc, une architecture sensitive avec une prise en compte, je pense, de données comme la lumière, la qualité de l'air, les vues. Avoir des standards portés sur l'humain et sur la qualité et le confort et la poétique que le projet apportera à l'usager.
Voilà. Et du coup, est-ce que là je vois un peu Fiti qui est un peu sans voix alors qu'elle parlait beaucoup au début. on continue sur toi. Quel est ton un concept en architecture? Quel est ton c'est à peu près la même chose à la limite dans votre vraiment dans votre approche.
Quel est le concept?
Oui, voilà, c'est la question que tu voulais qu'on te pose.
Qu'est-ce qu'un concept en architecture, selon moi?
Oui.
Ouais.
Je pense que j'ai répondu au début de ce podcast, mais un concept, pour moi, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est surtout l'idée qui porte le projet, autour duquel tout va s'articuler, je pense. Je pense que c'est quelque chose qui en début, même juste avant l'esquisse, c'est quelque chose, c'est un sentiment, une sensation. Ça peut être des questions de lumière, ça peut être une envie par rapport à l'utilisation des matériaux, ça peut, je pense, aussi être un souvenir d'enfance, je me répète un peu. Mais je pense qu'un concept, c'est ce qui va, on va dire, c'est la colonne vertébrale du projet. Donc, malgré toutes les différentes interventions et du maître d'ouvrage et des autres collaborateurs, je pense que c'est un concept, c'est ce qui permet de tenir, de tenir le projet et d'éviter les digressions. Après, on peut partir très vite dans différents sens et finalement perdre le sens qu'on voudrait donner au projet.
Mais moi, je rebondis juste sur ce que tu disais de cette définition que tu as du concept. quelle est ta pensée sur le geste architectural? Parce que donc, certains architectes parlent de concepts et font un croquis comme ça rapidement. Qui va donc se réaliser. Que penses-tu de cette manière d'évoquer le concept?
Honnêtement, moi, le concept, c'est un petit peu de dessin, mais j'aime beaucoup faire des maquettes abstraites. Genre, ça peut être des maquettes en balsa, une maquette de volume, hein, une maquette complètement abstraite en balsa, donc je disais, sinon en argile aussi. J'aime beaucoup le fait de pouvoir toucher, d'avoir l'idée en main. Je ne sais pas comment traduire ça, mais d'avoir l'idée dans le creux de ma main, de la tourner dans tous les sens avant de me lancer dans le dessin. Donc c'est vrai que je vais beaucoup en visite, je vais beaucoup prendre de photos, puis faire un croquis, mais pas un croquis, pas les beaux croquis que toi tu fais, Chama. Mais je vais faire un croquis rapide et ce que j'aime le plus, c'est essayer de traduire une idée, un concept par une maquette.
D'accord, donc plus l'expérimentation, les volumes, la matière, le travail de la matière.
C'est ça, plus d'avoir quelque chose, j'entends bien qu'on puisse, que ça soit, que ça soit tangible aussi, un croquis. Mais j'aime aussi le fait qu'on puisse avoir une idée directement en 3D, que je sais que je ne suis pas très habile avec les mots. Du coup, j'aime beaucoup pouvoir discuter avec un volume et voilà, utiliser des signes.
D'accord. Et toi, Maïfa, du coup,
question. Je pense que un concept en architecture aussi, c'est le pierre d'ancrage du projet en question sur son site, sur son contexte direct. Ce qui fait que ce projet-là ne peut pas être recopié ou déplacé dans un contexte différent. C'est toute l'histoire, c'est toute la réflexion, le résumé de la réflexion derrière le projet. Et généralement, c'est le concept qui garantit à l'architecte d'avoir toutes les réponses aux différentes attaques et questions, des fois, qui peuvent être posées sur le projet. Et sans concept, le projet il n'apporte aucune contribution à la réflexion des gens. Et voilà, c'est quelque chose qu'on va juste considérer dans l'espace urbain et qu'on va même pas remarquer. Et d'un autre côté, avoir un concept assez solide aussi permet de titiller l'imaginaire de tout à chacun, d'imaginer ou de recréer l'espace dans l'imaginaire des gens. Je pense que ça apporte aussi un élément de réponse à ce qu'est un concept en architecture.
Ouais, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que le concept doit être pris sur le terrain. Et je pense aussi que le concept est issu du constat qu'on fait quand on visite un terrain. C'est un constat, une conséquence des données qu'on a analysées, de l'analyse de site sociétal, économique, politique, et que c'est à partir de tout ça qu'on sort un concept et qu'il n'est pas juste issu d'une réflexion abstraite ou d'un geste architectural. C'est un peu à l'opposé de ce que font les archistars, un peu, je dirais, faire un petit croquis qui sera un peu un objet déconnecté de son environnement et de son contexte. Donc, c'est un peu une vision du concept qui est contraire du concept vu par la vision élitiste, je dirais, des architectes.
Exactement. Et c'est ce qui fait que c'est un peu difficile de donner une vraie définition du concept en architecture, vu que tout le monde, chaque architecte, et chaque processus architectural a un concept différent à la fin. Donc, ça me rappelle une anecdote qu'un de mes collègues nous a raconté sur les tours à Dubaï, sur les projets à Dubaï. C'est que c'est juste pour montrer un geste architectural qui n'a pas forcément de lien direct avec ce qui se passe. et que ce tour-là peut être déplacé dans n'importe quelle partie du monde sans que, voilà, quoi, s'il n'y a aucune attache, c'est juste pour faire, voilà, star architecte. Mais bon, pas tous les projets, mais malheureusement, la majorité d'entre eux.
Oui, au final, comme vous dites, un concept, ça peut pas être quelque chose qui tombe du ciel. C'est que effectivement, l'architecture, puisqu'elle est ancrée dans un contexte, il faut qu'elle puisse, il faut qu'elle réponde aux caractéristiques du site dans lequel elle va s'ancrer. Donc effectivement, un concept pour qu'il soit fort et qu'il ne se perde pas dans tout le processus du projet, il faut aussi qu'il puisse faire écho aux caractéristiques du territoire dans lequel il s'insère.
Exactement. Juste en rebondissant sur cette question, est-ce que vous avez un concept en particulier, une approche en particulier dans vos projets que vous avez adopté à chaque fois?
En ce qui me concerne, j'en ai déjà parlé, je pense. C'est être sur le site, être avec. Enfin, pratiquer plutôt le rôle de l'habiter beaucoup, des interviews. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est plus un travail poussé sur l'analyse de site et les données existantes. L'existant, en fait. Travailler sur l'existant pour vraiment pouvoir proposer un projet qui soit pertinent. Mm. Puis après, je travaille beaucoup par le dessin, les photomontages, les maquettes aussi, comme Fiti, j'aime beaucoup en faire en prenant des matériaux sur le site, donc en travaillant avec de la terre, de ce que je retrouve, et j'essaie de travailler en volume là-dessus aussi.
Et côté technologique, est-ce que ça fait partie du processus de design à la recherche du concept, ou c'est juste est-ce que vous vous focalisez plus sur les dessins à la main, les croquis, les montages? Dans certains bureaux que j'ai visités, que j'ai vu, il y a des gens qui voilà, conceptuellement, ils mettent le truc en 3D, ils invitent les clients à venir, ils mettent des HTC Vive ou des Oculus Rift sur leur tête, et le client, il explore son futur projet à travers les discussions. Hein. Évidemment, ce sont ce genre d'avancées technologiques que certains architectes aussi utilisent dans leur processus de conception. Je trouve que qu'il y a quelque chose à faire aussi là-dessus.
Oui, moi je comprends qu'il faille avancer avec les moyens de notre temps. Et ce sont des outils très intéressants, mais il y a aussi quand même ce concept cette idée que la pensée est reliée à la main, et que quelque part, pour que ton idée, tu peux pas perdre ton idée si elle est dans ta tête. Quelque part, pour ancrer ton idée dans le réel, pour ancrer ton imaginaire dans le réel, il faut aussi que quelque part tu te le notes, que toi tu aies une trace de ce à quoi tu as pensé. Alors que directement travailler en 3D, c'est bien, mais quelque part, est-ce que tu n'as pas peur de perdre le sens du projet avec des questions de rendu, par exemple? Je ne suis pas contre du tout, hein, j'utilise aussi les rendus 3D, etc. Mais honnêtement, aujourd'hui, ça, personnellement, je n'arrive pas à me dire que je vais directement matérialiser mon idée en 3D sur l'outil informatique.
Mais moi, je ne pense pas que baser simplement la conception sur la technologie, non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Enfin, c'est personnel, mais bon. C'est juste quelque chose qui complète, en fait, tout le processus de réflexion que tu as eu auparavant, au préalable.
Oui, je suis assez d'accord, dans le sens où c'est un outil qui peut intervenir par la suite, donc dans le processus, dans la fabrique du projet, qui doit intervenir, il me semble, par la suite. Mais je pense qu'au début, ce n'est pas l'idéal, parce qu'on a une vision assez figée, finalement, du projet. Et je trouve qu'il est plus intéressant de commencer par le dessin et puis de pousser la réflexion avec le client, donc de pouvoir avoir une sorte d'évolutivité du projet plutôt que de montrer déjà quelque chose de figé au client. Peut-être par la suite, ça peut être un outil très utile. Voilà.
Donc du coup, en fait, on se retrouve un peu tous les quatre dans un monde qui est en train de changer. Hein. L'architecte s'adapte un peu à tout ça technologiquement. La prochaine question pour Fiti, c'est un peu ça. Comment tu vis l'architecture? Oui, c'est ça.
Honnêtement, aujourd'hui, je vis l'architecture comme une passion. Mais c'est vrai que je suis dans le métier depuis pas très longtemps et déjà tu n'arrives pas à la fin de tes études dans une agence où tu vas faire ce que tu veux. Tu t'adaptes à l'entreprise que tu intègres. Et c'est vrai que dans cette idée de vivre l'architecture comme une passion, j'ai honnêtement pas encore eu l'occasion de me sentir passionnée parce que je fais investi, oui, mais passionnée peut-être pas, parce que ce ne sont pas peut-être pas des projets qui m'intéressent vraiment, des projets sur lesquels j'avais pas forcément d'idée. C'est vrai qu'en arrivant dans le métier, t'es plus amenée à dessiner, à prendre les projets en cours de route, et puis petit à petit je pense avec le temps que tu passes dans les agences, on te confie un peu plus de choses. Et là, tu vis l'architecture. Enfin, l'idée que j'avais de vivre l'architecture comme une passion, je la vis aujourd'hui comme une réalité, en fait. Et cette réalité, au fur et à mesure que j'avance dans le temps et dans mon parcours, je la vis comme, comment dire, comme la finalité de ce pourquoi j'ai fait toutes ces études. C'est que au final, on sort de l'école, on est là, on a toutes nos idées, nos concepts, on a une vision assez idéalisée, rêvée de ce que c'est l'architecture. Et finalement, l'architecture, c'est pas un rêve, c'est l'architecture comme elle s'ancre dans le réel. Je pouvais pas arriver dans le métier en me disant je rêve de ça et c'est ça que je veux faire. C'est aussi s'adapter et finalement c'est hyper intéressant. C'est encore plus intéressant que ce que j'aurais imaginé en fait.
Maïf, est-ce que tu peux relever ça?
Je pense que je partage la même vision que Fiti, hein, c'est une passion. Tu te rends compte que c'est une passion quand tu entres dans une librairie où les seuls livres que tu cherches sont des livres d'architecture. Quand tu marches dans la rue et qu'il y a un beau bâtiment, tu t'arrêtes un peu et tu regardes comment ils ont détaillé les façades, etc. C'est ce genre de choses qui font que, voilà, que ça devienne une passion et qu'on n'est jamais ennuyé ou qu'on n'est jamais satisfait, en fait. Des projets dans lesquels nous sommes en train de travailler, et que même à la fin du projet tu te poses la question mais hey, j'aurais peut-être pu faire ça autrement. Tu vois, c'est jamais fini ça. Te forces à le finir, mais au final voilà, il y a toujours ce questionnement qui revient à chaque fois, j'aurais peut-être pu le faire autrement, et c'est ça qui fait que voilà, quelqu'un est vraiment passionné parce qu'il fait, il n'est jamais satisfait du résultat, quoi. Voilà. C'est comme ça que je le vis au quotidien. Voilà.
Et toi, Chama?
Je suis assez d'accord avec vos deux visions de l'architecture. Je pense qu'on ne peut pas pratiquer l'architecture si on n'est pas passionné, surtout dans les nouveaux contextes difficiles économiquement, je dirais. Non, c'est vraiment un métier de passionné. On peut créer durant des heures, faire des nuits blanches. Et puis, il y a toute une contamination de l'architecture qui est assez intéressante puisqu'elle est contaminée, mais d'une manière positive, par toutes les autres disciplines, que ce soit l'art, la sociologie, la géologie, la géographie, les contextes économiques, politiques. Et c'est ce qui est intéressant dans l'architecture et ce qui fait que c'est un processus sans fin, que l'architecte n'a jamais fini d'apprendre et qu'il s'enrichit de tout ce qui l'entoure. Mais c'est vrai que c'est une manière de vivre l'architecture, comme tu disais, Maëfa, c'est aller à la librairie, regarder des livres d'architecture, c'est pendant les voyages, quand on est avec d'autres personnes qui ne comprennent pas qu'on s'arrête devant une ruelle parce qu'on la trouve belle ou qu'elle nous procure quelque chose. Ouais, c'est vraiment une manière de vivre. C'est une passion et une manière de vivre.
Si tu devais travailler avec un seul matériau, ce serait quoi?
Aujourd'hui, je pense que si je devais travailler avec un seul matériau, ça serait la terre. J'ai découvert, c'est un mot fort. J'ai découvert les techniques d'utilisation de la terre crue il y a 3 ans. Donc j'étais encore étudiante. Et c'est vrai que c'est pas forcément un matériau auquel j'aurais pensé. Puis on a été amené à essayer d'imaginer comment techniquement on pouvait construire un musée de 20 mètres de haut sur 20 mètres de large en terre crue. Et je pense que mon intérêt pour la terre est parti de ce projet-là. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai proposé une idée pour le concours d'une chapelle au Rwanda. Et c'est vrai que l'idée de la terre crue est venue presque naturellement, en fait. Parce que j'aime beaucoup cette idée que un projet est façonné de la terre dans lequel il se trouve. L'idée que c'est un matériau, déjà c'est un matériau qu'on utilise depuis toujours, que peut-être dans la facilité entre guillemets de mise en œuvre, dans le fait que on puisse amener les usagers à participer facilement, qu'il n'y ait pas tout le temps besoin de forcément de beaucoup de techniques et d'industrialisation pour construire un bâtiment en terre. Et quelque part, le fait d'utiliser la terre, c'est aussi ça. Enfin, l'envie d'utiliser la terre, ça conditionne le dessin, l'organisation des espaces, etc. Donc, si aujourd'hui je devais utiliser un seul matériau, je pense que ça serait la terre. Et puis, il y a différentes mises en œuvre. Je sais qu'à Madagascar, on utilise beaucoup la brique. Il y a la technique du pisé. Enfin, il y a toutes ces techniques-là qui font que, au final, peut-être que c'est un seul matériau, mais les rendus sont différents. Les sensations aussi peuvent être diverses. Et toi, Maëve, tu utiliserais quel matériau?
Bon, ça dépendra du projet. Hein. Peut-être que si c'est un projet résidentiel, je chercherais plutôt un matériau qui appellerait à un confort ou à une chaleur quand on est dans un espace. Peut-être que le bois serait un choix plus judicieux, ou peut-être la terre. Si c'est un autre projet, j'aime beaucoup ce que les gens font avec le béton. Mm-hmm. Je pense que ça présente énormément de possibilités et que l'imagination de l'architecte est juste la limite hein, de ce qu'il peut faire avec le béton, au-delà de toutes les contraintes techniques, bien sûr, mais voilà, le bois, peut-être un peu plus, voilà. Surtout d'un point de vue d'un espace intérieur, au moins il y aura forcément du bois quelque part. Enfin, j'aime voir, j'aime sentir la texture, j'aime le toucher du bois et la chaleur que ça procure. Je pense que c'est assez cool.
Alors, si je devais utiliser qu'un matériau, je pense qu'on avait fait en fait un workshop avec l'architecte Simone Vélez, qui en troisième année d'architecture, qui travaille énormément avec le bambou. Et on avait fait du coup toute une construction en bambou à cette époque. Et c'est vrai que le bambou est un matériau qui présente énormément de qualités constructives, esthétiques. Donc on peut allier le pragmatisme et l'esthétique avec ce matériau. Donc il présente énormément de qualités. Il faudrait vraiment pousser au niveau de l'expérimentation et de la recherche pour voir tout ce qu'on pourrait faire avec, surtout dans un contexte africain et dans un contexte ici avec l'humidité où l'utilisation du bois est très complexe, donc à Tamata. Je pense que le bambou pourrait être une alternative et un matériau très intéressant à utiliser.
Voilà, voilà. Le mot de la fin, merci beaucoup Chama et Maïf et Fiti pour cet entretien. Est-ce que vous avez préparé le mot de la fin?
Je suis ravie de nous avoir permis de discuter de ce qu'on aime et peut-être comme mot de la fin, un souhait hein, pour cette initiative qui est d'autres architectes qui partagent aussi leur vision des choses et que, in fine, si ça aide à expliquer ce que l'on fait, voilà, c'est tout bénéfique pour tout le monde et pour, surtout pour notre pays, quoi. Donc, bonne chance pour la suite et merci de nous avoir invités.
Ouais, voilà, merci pour cette belle expérience. On a pu échanger sur nos pratiques et j'espère que ça permettra aussi une sensibilisation au métier de l'architecte et de la profession qu'il exerce.
Pareil, donc, merci Johan d'avoir mis en place cet entretien, de nous avoir permis d'échanger entre nous. C'est vrai que ça, c'est assez rare de se dire qu'on va retrouver un groupe d'architectes et discuter entre nous, mais là, c'est venu naturellement. Le fait de mettre en place la plateforme, de mettre en place une plateforme, un podcast comme ça pour qu'on puisse échanger, c'est finalement en parlant de ce qu'on aime faire, de notre passion, tout vient naturellement. Enfin, il n'y avait pas besoin de préparer comme une conférence, quoi. Et merci pour cette initiative. Merci pour cette initiative. Parce qu'au final, ça nous permet, peu importe notre parcours, peu importe depuis combien de temps on pratique et tout, de se sentir concerné, véritablement concerné, parce que je pense qu'au-delà de juste un échange entre des architectes, ça permet de rendre la profession visible et ancrée chez nous.